RMC, le week-end des experts, 6h-7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas?
Ça pousse pas, ça pousse pas.
J'ai de petits problèmes dans ma plantation.
Et parce que quand ça pousse pas, franchement. C'est pas bien, hein. Non, mais franchement, Patrick, il faut que vous aidiez nos auditeurs. Quand ça pousse pas, vous êtes leur seul espoir. Vous êtes un peu le Obi-Wan Kenobi du jardin, ouais. Finalement. Patrick Mulan est là, vous le savez, chaque samedi, 6h-7h, notre expert jardin. Vous pouvez le joindre pour poser toutes vos questions au 32-16 ou via l'appli RMC et Direct Studio. On va parler des semences et des graines maintenant, Patrick, parce que, justement, il y a un projet de loi qui vous interpelle et on va l'évoquer maintenant.
Oui, il y a un amendement qui a été déposé, je crois que c'est mercredi de cette semaine, au niveau de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, pour une nouvelle lecture concernant les projets de la loi sur les états généraux de l'alimentation. Et dans ce projet-là, on vous dit que quiconque pourra vendre des semences, notamment des semences de légumes, des semences potagères, en exonération des règles actuelles de commercialisation, c'est-à-dire que vous récoltez des graines chez vous dans vos propres jardins, vous allez au marché, vous vous installez sur un tréteau,
un petit tréteau,
et vous allez
graines.
Pouvoir les vendre. Aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'évidemment, il y a des contrôles des contrôles sanitaires, des contrôles de qualité de variété, de qualité de germination, etc., qui sont faits de façon officielle depuis longtemps.
D'accord.
Donc cette loi, elle
et
est en train de...
Tout ça va disparaître, en fait. C'est-à-dire que demain...
Oui, ils sont en train de nous mettre en arrière de, je sais pas, 20 ans au moins. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui va à l'encontre à la fois de la protection de l'utilisateur et peut-être même de la protection de nos jardins. Donc pour parler, pardon, un petit peu de ça, j'ai invité au téléphone François Burgot, il est directeur des relations extérieures du GNIS. Le GNIS, c'est le groupement national interprofessionnel des semences et plants. Et on va quand même lui poser déjà la question.
Bonjour François, en tout cas, merci d'être là.
Bonjour.
Bonjour François. Oui, donc je viens de poser un petit peu la problématique. Et la première question qui nous vient à l'esprit, c'est quels sont les risques réels que ce projet de loi est en train de nous poser?
Les risques, vous venez de les évoquer. D'abord, le fait qu'on puisse se faire tromper sur ce qu'on croit acheter comme variété. Même les gens qui sont attachés à retrouver, vous savez, les vieilles variétés de légumes qui, pour certaines, étaient absentes de nos jardins. Quand ils veulent cette vieille variété de légumes, ils aimeraient bien que ce soit ça qui pousse après qu'ils aient semé.
Oui, parce que c'est pas aussi évident que ça d'obtenir exactement la même variété que celle qu'on avait avant, parce qu'il peut toujours y avoir, on va dire, des erreurs dans la génétique ou des dégénérescences, etc.
Ou même simplement, on sait, et certains d'ailleurs disent qu'ils souhaitent en profiter. On sait que une variété, naturellement, quand vous la semez, en fonction des conditions de l'année, les graines que vous pourriez éventuellement récolter, elles seront peut-être un peu différentes de ce qu'elles étaient à l'origine. Et un des travaux de ce qu'on appelle les semenciers, qu'ils soient gros ou petits, c'est justement de faire en sorte de dire si je veux une tomate noire de Crimée, j'aimerais bien que ça reste de la noire de Crimée tous les ans. Donc ça c'est quelque chose d'important, mais surtout et vous l'avez évoqué, surtout la vraie question que pose le fait de faire disparaître ces règles, c'est qu'on met en danger de fait les jardiniers amateurs. On les met en danger notamment sur le fait sur la question sanitaire. Vous savez, je suis sûr que vous avez évoqué dans votre émission le fait qu'au 1er janvier 2019,
on aura interdiction des traitements plus de produits phytosanitaires d'origine chimique, oui.
Voilà. Et donc, si c'est à ce moment-là qu'on dit on va même pas plus vérifier que les semences, les graines qui vous sont vendues n'ont pas de maladie, ça paraît un peu curieux. Vous voyez, c'était justement le moment où il fallait être encore plus attentif au fait de ne pas transmettre des maladies à travers les graines.
Mais on va dire que les supporters du fait de faire ses propres graines ont tendance à dire, à partir du moment où vous récoltez vos graines sur un plan qui était sain, qui était vigoureux, et c'est en fait ce qui est souvent conseillé, vous n'avez pas de risque. C'est vrai ou pas?
Non, c'est pas vrai, parce que tout le monde sait que les maladies se transmettent d'une plante à une autre.
Oui, donc, puis qu'on ne voit pas, elles peuvent être dormantes, etc.
Oui. Oui, puis si on était... Non, mais c'est pas ça. Mais si chaque jardinier était totalement isolé du monde dans son jardin, il pourrait avoir ce raisonnement. Mais il a un jardin d'un voisin à côté. Oui. Et ce voisin, il travaille peut-être pas aussi bien que lui. Donc, vous savez très bien que... on a entendu parler, par exemple, de la maladie des oliviers. Il y a sûrement des gens qui travaillaient très bien et qui avaient des oliviers très sains. Bah, ils ont été atteints par la maladie des autres.
Alors donc, les contrôles officiels qui sont réalisés aujourd'hui, en fait, permettent d'éviter cette dérive.
Oui, alors, la loi garde les contrôles sur la production. Donc, à la limite... Un jardinier amateur qui achètera des semences dont il est sûr qu'elles ont été produites en France, il aura cette assurance. La levée des contrôles, elle concerne la vente. Donc par exemple, le jardinier qui achète des graines sur Internet, qui ont été produites ailleurs, il n'est pas sûr que ces graines auront été contrôlées.
Oui, mais ça, c'est le problème un petit peu des réseaux aujourd'hui et de la toile. On ne sait pas toujours d'où viennent les choses. Alors, il y a quand même des avantages, on va dire, notamment économiques, à produire ses propres semences. Alors, sure, on ne peut pas le faire avec tout. On va le faire surtout avec ce qu'on appelle des plantes allogames, c'est-à-dire des plantes qui s'auto-fécondent. Alors, dans le jardin, on a essentiellement l'aubergine, le haricot, la laitue, la mâche, le pois... Le maïs, le poivron et la tomate, ça fait quand même pas mal. Mais il y en a encore plein qui sont fécondés, soit par les insectes, soit par le vent, et qui font des hybrides obligatoirement. Donc, de toute façon, il faut déconseiller, on va dire, aux jardiniers amateurs, même pour son propre usage, de multiplier des plantes qu'on appelle donc allogames, comme la betterave, la carotte, l'épinard, le maïs, le chou, le radis, etc., qui, elles, vont donner, ou même les cucurbitacées d'ailleurs, qui, lorsque... Alors ça, c'est simple. Hein. Vous mettez deux types de cucurbitacées ensemble, vous êtes certain d'avoir des hybrides au bout du compte. Parce que, de toute façon, les insectes vont s'être baladés d'une fleur à l'autre, et ils vous ont mélangé, par exemple, un potiron avec un melon, par exemple, ou avec un concombre. Donc ça, c'est des risques absolus. Donc, qu'est-ce que l'on peut conseiller, quand même, d'une manière générale, c'est pas faire trop régulièrement ces graines. Moi, j'avais tendance à dire, si vous avez des belles tomates, etc., donc, qui sont pas des variétés hybrides, donc qui sont des variétés fixées, vous pouvez au moins une saison, on va dire, récolter les graines, mais après il faudra revenir dans le commerce. Qu'est-ce que vous en pensez, François?
Oui, vous avez raison sur le phénomène que vous décrivez. Alors après, j'aurais tendance à dire, il ne faut pas non plus confondre un vrai risque comme ceux qu'on a évoqués avant concernant les questions sanitaires, ou un risque dont on n'a pas parlé quand on achète des graines non contrôlées, consistant à acheter des graines qui germent pas. Mais ça, c'est pas... voilà. Mais quand on...
Oui, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand on achète un sachet de graines dans le commerce, on est certain d'avoir un pourcentage, on va dire, élevé de germination. C'est une obligation.
Oui, absolument. Alors, il peut arriver des fois qu'on achète un sachet de graines qui ne correspond pas, mais à ce moment-là, on peut aller
on
voir
son marchand
de graines et se faire au minimum rembourser. Donc, voilà, parce que la germination est quelque chose de vivant aussi, donc il y a beaucoup d'étapes auxquelles ces graines sont soumises à des analyses pour vérifier qu'elles germent bien, mais il peut y avoir à certains moments dans le stockage des accidents. Mais en tout cas, voilà, le marchand...
Il est responsable, en fait.
Voilà, il est responsable parce qu'il y a un taux de germination minimum, ce qui ne sera plus le cas. Et à la limite, je serai pas en tort. Alors, je serai pas en tort, évidemment, si rien n'interdira aux marchands de dire mes graines, elles germent très bien, et puis qu'elles germent qu'à 10%. Mais c'est surtout que vous savez qu'il arrive. Alors ça, c'est pour les jardiniers moins professionnels. Vous avez différents types de jardiniers amateurs. Alors il arrive qu'une graine ne germe pas, et alors On dit au jardinier, ben oui, mais c'est parce que t'as pas planté au bon moment.
Bon, ça arrive aussi quand même.
Merci François Burgot, merci beaucoup.
Merci.
Directeur des relations extérieures du GNIS. Donc,
oui, voilà. On voit quand même qu'il y a un vrai problème avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on lâche tout contrôle, et surtout qu'on permet la vente de produits non contrôlés, bah, de toute façon, il y aura des dérives, et ça, il faut que la profession travaille pour éviter cela.
7h20, on revient dans un instant. On va s'intéresser aux plantations de tomates d'André qui sèchent et meurent systématiquement dans son coin. Il aimerait savoir pourquoi. Il va nous exposer son problème et vous allez pouvoir y répondre.
Il n'a peut-être pas les bonnes graines.
Il n'a peut-être pas les bonnes graines, effectivement. Et puis 32-16, bien sûr, pour nous joindre. Et juste après notre auditeur, ce sera la météo du jardinier. Patrick a scruté les cartes de Météo France et nous dira un petit peu où est-ce qu'on va. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Il est 6h42, c'est RMC, le week-end des experts, le jardin. On accueille André qui est là, avec nous, les Alpes de Haute-Provence. Bonjour André.
Bonjour.
Bonjour André.
Bienvenue André sur RMC. Il fait froid là ce matin à 6h42 chez vous?
Moi, je vis dans les Alpes de Haute-Provence,
oui.
Entre Fort-Calquier et Manosque.
D'accord. Bon, je vous demandais s'il faisait frais ce matin, mais vous m'avez peut-être pas entendu.
Non, il fait bon, ça va, il fait bon.
Parfait. Voilà, qu'est-ce qui vous arrive, on vous écoute.
Le problème que j'ai, depuis 4 ou 5 ans, on a tous dans la région les feuilles des plants de tomates qui sèchent. Ça commence par les plantes, un peu les feuilles du pied, et ça remonte jusqu'à la tige, et ça fait crever le plant de tomate. Là, j'ai déjà arraché les plants de tomate. Et on a cette maladie depuis 5 ou 6 ans, quelle que soit la variété de tomate. J'ai essayé même cette année de faire le semis de tomates, et pas plus de réussite. Et on ne trouve pas aucun traitement. Est-ce que c'est une maladie des plants? Est-ce que c'est une maladie de la terre?
Enfin, moi, je pense qu'à 99%, vous avez du mildiou de la tomate. Hein. C'est une maladie qui est fréquente. Oui. Bon, elle s'est bien développée cette année, le mildiou, sur l'ensemble des plantes,
oui.
Notamment sur les vignes, etc. Parce qu'il faisait très très bon, il faisait très chaud. Et ça
se développe. Mais on peut avoir la même maladie les étés très secs. Hein.
Oui, mais même. Non, mais il n'y a pas.
Cette maladie dans la région, là, elle est là depuis 7 ou 8 ans. Avant, on n'avait pas ça.
Oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, des foyers d'infestation, ça peut se développer. Et comme de toute manière, on en a parlé précédemment, les produits de traitement efficaces d'origine chimique vont être interdits. De toute façon, on ne va pas améliorer les conditions pour ce genre de choses-là. Bon, ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord de vraiment pratiquer la rotation des cultures, c'est-à-dire donc de jamais refaire deux fois, enfin du moins pas jamais, mais enfin de pas refaire deux fois des tomates dans la même parcelle avant au moins 3 ou 4 ans, de manière à ce que vous ayez les germes de la maladie puissent éventuellement s'éliminer naturellement et que vous alliez dans des parcelles qui sont saines. Donc ça, c'est très important. Dans un potager, de toute façon, que ce soit les tomates ou que ce soit d'autres légumes, à part les radis, on fait vraiment une rotation de culture, et en fait on fait suivre généralement un légume fruit comme la tomate d'un légume feuille, et puis après d'un légume racine, et on reviendra sur un légume fruit par la suite. Donc il faut pas non plus, ça c'est important, cultiver des plantes de la même famille sur la même parcelle, pareil, plus d'une fois tous les 3 ans, c'est-à-dire que dans les tomates qui font partie de la famille des solanacées, vous avez quand même aussi les aubergines, les poivrons et les pommes de terre, donc il faut pas que ces 4 plantes-là se suivent du tout sur la même parcelle, parce qu'elles peuvent avoir les mêmes types de maladies.
J'ai que les tomates qui attrapent cette maladie. J'ai des poivrons à côté, j'ai les aubergines, j'ai des courgettes, j'ai un peu de tout dans le jardin, il n'y a que les tomates.
Bon, alors après, si c'est quelque chose qui s'est généralisé vraiment dans l'ensemble de votre coin, moi je vous conseille de faire une chose. Il y a, dans les préfectures, il y a toujours un service de protection des végétaux.
D'accord.
Donc à ce moment-là, vous allez voir, vous prenez des échantillons, parce qu'en plus, bon, moi là, j'ai pas d'échantillons, j'ai pas tout ça, et vous leur apportez des échantillons pour leur présenter et que il y ait un véritable diagnostic. Une fois que le diagnostic est vraiment établi, là, on peut vous proposer un plan de sauvetage, si je
D'accord,
puis dire.
Ouais. Hein,
voilà. Après, peut-être aussi, alors vous disiez que en fonction, selon les variétés, ça a fait de toute façon la même chose, mais, il y a forcément des variétés, notamment dans les variétés nouvelles, qui sont résistantes à certains types de maladies. C'est ça l'avantage, je dirais, d'acheter des variétés nouvelles par rapport à des variétés classiques, c'est qu'en permanence, les obtenteurs travaillent sur la résistance aux maladies. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut travailler, si vous voulez. Mais donc je vous conseille vraiment ça, ou d'aller même avec un groupe de jardiniers pour essayer d'expliquer votre cas à la préfecture, voilà. Au service de protection des végétaux.
Avec une banderole, on manifeste.
Mais non, on montre que c'est un phénomène important.
Tout à fait.
Dans un coin.
Ouais, bien sûr. Tiens, un autre auditeur sur Direct Studio nous dit, alors moi j'ai un problème différent avec mes tomates, mes fleurs fanent et tombent sans donner de fruits.
Alors ça, c'est qu'il n'y a pas fécondation. Pourtant, la tomate est une plante autogame, c'est-à-dire qu'elle s'auto-féconde. Alors là, ça peut être plutôt des conditions climatiques, c'est-à-dire que soit l'exposition est pas bonne, soit vous êtes la plante est sur un courant d'air vraiment qui fait avorter les fleurs, soit elle reçoit pas suffisamment de soleil, ou au contraire, elle est cramée, elle est pas assez arrosée. Il y a un truc sur la tomate, c'est que tant que la tomate n'a pas produit ses premiers fruits, il faut énormément l'arroser.
D'accord.
Alors on l'arrose surtout au pied pour vraiment favoriser le développement et puis justement la floraison, etc. Au moment de la floraison, la plante ne doit pas manquer d'eau. En revanche, quand les fruits commencent à se former,
là,
vous pouvez la laisser au sec pour plusieurs raisons. C'est que, alors la plante sera moche parce qu'elle va souffrir, mais elle va vous donner une saveur, une concentration de sucre, d'éléments qui vont vous donner un goût absolument incomparable. D'ailleurs, on est tous à le dire, quand on achète des tomates dans le commerce qui ont été cultivées simplement en serre dans des petits cubes de laine de roche, on dit elles ont un goût de flotte.
Parce qu'elles ont trop d'eau, elles sont.
Elles n'ont pas été cultivées vraiment dans le terroir.
D'accord.
Alors que là, si vous profitez vraiment du sol, vous allez avoir des géniales tomates.
Doris, dans un instant, qui va nous parler du tilleul de sa fille qui visiblement rencontre quelques petits problèmes. Mais auparavant, la météo du jardinier. En ce samedi 22 septembre 2018, 265e jour de l'année, sachez qu'on perd encore 4 minutes de soleil, avec un soleil qui se lèvera tout à l'heure à 7h36 et se couchera à 19h48.
Voilà, c'est la Saint-Maurice. On dit à la Saint-Maurice lisse et à Marie-Lisse entre en lisse. C'est vrai qu'on commence à planter tous ces bulbes-là pour avoir des fleurs, à la fois pour les lisses plutôt au printemps, mais les amaryllis, on les aura pendant l'hiver à la maison. Alors la météo du jardinier, elle est relativement simple. Alors sachez quand même que c'est demain l'automne.
Ah oui, ça y est.
Oui. Ouais. En général, c'est où le 22 22, on a eu 2009, 2012, 2016, 2017. Et si vous voulez un automne 21, ça sera 2092. Hein. Donc en fait, on va avoir des vents qui vont être plutôt orientés vers le nord-est, et ce qui va faire que la température va baisser. Pas demain. Demain, on sera encore plutôt sur le temps comme aujourd'hui, un peu pluvieux avec des vents de sud-ouest. Mais petit à petit, donc, on va passer au nord-nord-est. Et lundi, le vent soufflera assez fort et on aura vraiment un net coup de fraîcheur, puisque au lever du jour, on aura beaucoup de régions avec des températures inférieures à 10 degrés. Là, on vient de parler des tomates. Et par exemple, donc les tomates, à moins de 10 degrés, elles sont totalement bloquées. Donc, ça veut dire qu'il va falloir récolter dès à présent tous les fruits que vous avez sur vos tomates, même s'ils sont verts. Et de les mettre, vous les mettez dans des cageots bien exposés, alors soit derrière une fenêtre, soit dans la cuisine pour qu'ils continuent.
Ils vont mûrir.
Oui, ils vont arriver. Alors ça dépend à quel stade ils sont, mais en général, ils vont y arriver. En revanche, bon, on aura vraiment des temps d'automne, puisque en fait, en partant d'un 8-9 degrés au petit matin, on aura entre 14 et 28 degrés dans votre Corse préférée, avec une moyenne donc lundi de 16-18 degrés. On aura peut-être quelques pluies éparses, un peu comme ci, comme ça, mais d'une manière générale, l'ensemble de la semaine va être quand même plutôt très très belle, avec toujours cela. Matin, plutôt un petit peu frais, journée plutôt belle, pas beaucoup d'eau, donc on est dans
la période
d'arrosage, là il faut arroser. On arrose plutôt en milieu de journée, franchement, puisque comme la température baisse vraiment dans la nuit...
Et tous les combien à peu près?
Tous les combien à peu près? Sur des jardinières, sur des bacs, on va arroser en ce moment une fois par semaine, ça suffira.
Une fois par semaine, d'accord.
Au jardin, au potager... Pour regarder, vous creusez un petit peu, mais on va dire oui, pareil, une fois tous les 8-10 jours, ça devrait suffire pour la semaine.
Parfait, on enchaîne avec Doris qui nous attend au 32-16. Bonjour Doris.
Allô ?
Oui, Doris, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs.
Bienvenue, Doris, sur RMC. On vous écoute.
Vous m'entendez ?
Bah, oui, bien sûr. On vous copie, comme on dit. Allez-y.
Oula.
Eh bien, Doris.
Oui, si vous m'entendez, donc je vous pose la question parce que je vous entends pas très bien.
Alors, nous, on vous entend parfaitement, Doris. Donc, allez-y, posez votre question.
Alors, c'était pour savoir que peut-on faire, parce que ma fille habite dans le Bas-Rhin, et un tilleul de plus de 50 ans qui est rempli de punaises de tilleul, il semblerait.
Mais ça fait... Il y a des symptômes, la plante le supporte mal ?
Oh là là, j'entends rien.
C'est embêtant. Bon, alors, vous savez quoi, on va imaginer que justement le tilleul le supporte mal, tout ça.
Voilà, il y a deux types de punaises. Il y a des punaises qui attaquent réellement les feuilles, etc. Bon, ce sont des insectes qui peuvent donner l'impression, effectivement, que la plante est vraiment sous la pression de ces insectes. Globalement, l'effet, surtout sur un tilleul 50 ans, il est voisin de zéro. Même si vous avez des effets spectaculaires avec des trous dans les feuilles, etc.
Il
va supporter très très bien.
D'accord.
Et puis il y a d'autres punaises du type gendarme, vous savez ces punaises noires et rouges là,
oui,
qui peuvent s'agglutiner sur les troncs dans les anfractuosités d'écorce. Et ça fait encore moins, parce que ça mange essentiellement des éléments organiques. Donc il n'y a vraiment pas besoin de partir
à la
guerre.
Donc même si c'est impressionnant,
voilà,
on peut se dire,
vous
voilà,
pouvez avoir
visuellement,
des effets spectaculaires,
mais les conséquences sont extrêmement faibles,
surtout sur un arbre de cet âge-là.
Donc il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on peut éliminer, même esthétiquement peut-être ces punaises?
S'il y en a plein sur le tronc, il y a un truc qui fonctionne relativement bien, c'est la terre de diatomée. La terre de diatomée, c'est une sorte de poudre qui est extraite du sol après, on va dire, c'est une roche sédimentaire en fait, c'est-à-dire que des diatomées qui sont des algues unicellulaires avec un exosquelette siliceux se sont accumulées au fil des siècles pour faire une sorte de terre que l'on broie et qui donne une poudre qui donne l'impression aux insectes qu'ils vont marcher sur du verre. Donc en fait, c'est vraiment un très très bon répulsif, voire ça peut détruire une partie des insectes, et c'est totalement sans danger pour les humains, pour les oiseaux, etc.
Voilà, mais le tilleul de Doris, pas de souci.
Donc,
merci Doris pour votre appel, et bon, on va essayer de réparer votre téléphone. 6h54, Patrick, pour terminer, votre coup de gueule.
C'est plutôt un coup de cœur, parce que ce que je vais vous proposer, c'est vraiment sympa, c'est la fête des plantes d'automne au château de Saint-Jean-de-Bourgard. Ça a commencé hier, ça a fait tout le week-end, il y a plus de 250 exposants, il y a énormément de sortes de végétaux, il y a des légumes anciens, vous allez rencontrer des spécialistes qui sont là pour vous vendre des plantes bien sûr, mais aussi pour discuter, pour partager leur passion, il y a des conférences, il y a une exposition de près de 1500 variétés de tomates dedans, avec des dégustations possibles.
Là, elle fonctionne.
Et puis le Saint-Jean actuellement, c'est vraiment très beau parce que c'est un grand potager avec un verger, donc vous avez des arbres fruitiers avec des fruits, c'est une grosse année à pommes notamment, et puis vous allez avoir des tomates, des melons, plutôt des courges, des potirons, des citrouilles, tout ça qui sont exposés, et c'est vraiment très très joli. Alors Saint-Jean-de-Bourgard, c'est dans l'Essonne, du côté des Ulysses.
Voilà, donc c'est pas très loin de Paris, hein.
Oui, ça fait une petite demi-heure.
Voilà, c'est ça. Patrick, on se dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine.
Voilà,
on sera là à 6h-7h sur RMC.
Bon oeil, les jardinières, je vous embrasse, ma petite jardinière, comme d'habitude, bien sûr, aussi, et je vous dis à la semaine prochaine.
Et dans un instant, Christian Pessé prend le relais,
les
amis.
Oui, je suis là. Bonjour François. Bonjour Miu Miu.
Le salon faire construire, Christian Pessé.
Oui, faire construire sa maison. Donc, on va vous donner tous les conseils qu'il faut pour bien construire sa maison, pas avoir trop de problèmes.
Voilà.
On a toujours un peu. Donc,
du choix du terrain jusqu'à la livraison de la maison, hein.
Tous les conseils.
Voilà. Et alors, tiens, si vous êtes justement concerné par ce sujet, parce que vous projetez de construire votre maison, c'est le moment ou jamais, hein. Posez vos questions sur ce sujet dès maintenant. 3216 ou via l'appli RMC Direct Studio. On revient après la météo, les infos et l'actu sport. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, votre maison.